The things I do astound me.
Cette atterrante résistance gouvernementale à toute logique contraceptive qui fait du Japon une sorte d'îlot préhistorique dans l'univers gynécologique puise ses racines dans la panique démographique suscitée par le baby-boom de l'après-guerre, donc entre 1945 et 1950. La population, par exemple, du Japon a bondi de 72 à 83 millions d'habitants. La loi eugénique donc de 1948, dont je vous parlais tout à l'heure, aura ainsi à cette époque des effets radicaux. Entre 1947 et 1957, le taux de natalité chutera de 34,3 à 17,3 pour 1000 et 24 millions d'avortements seront recensés entre 1948 et 1978. Il y en eut sans doute évidemment le triple. Cette explosion abortive, selon les termes d'un spécialiste japonais de la démographie, va complètement banaliser l'avortement comme méthode contraceptive. D'autant que sa pratique ne rencontre pas de résistance d'ordre religieux. Le shintoïsme, première religion nationale, et le bouddhisme n'ont aucune doctrine spécifique sur la question. L'arrivée de la pilule dans les pharmacies américaines en 1960 ne change rien. D'une part, la mentalité japonaise est a priori hermétique au produit. Je cite les propos du docteur Oshiro Yanagati, qui est directeur de la Tokyo Maternity Clinic, qui dit ceci: « En Orient, les femmes ont toujours pensé que ce qui est naturel, comme la médecine chinoise, est ce qu'il y a de mieux pour le corps. » Elles détestent l'idée d'avoir à prendre un médicament à vie et l'utilisation du préservatif que les soldats ont généralisé lors des campagnes militaires est ancrée dans les coutumes sexuelles. D'autre part, la pilule arrivait sur le marché japonais au plus mauvais moment. Le pays était alors secoué par l'une des pires séries de scandales sanitaires qu'il ait connues. Enfants nés mal formés après la consommation de sédatifs par leur mère, bébés empoisonnés par des doses d'arsenic mêlées à du lait en poudre. Et surtout, le gouvernement, soucieux de conserver la maîtrise de la natalité, lance à ce moment-là une campagne de dénigrement proche de la désinformation, dénonçant la pilule et ses risques d'effets secondaires graves sur la santé. Et pour légitimer l'interdiction de sa commercialisation, il trouve des alliés de poids. Les quelques 16 000 obstétriciens et gynécologues de la toute-puissante Association des médecins, l'équivalent de notre ordre des médecins, plus préoccupés par la santé de leur portefeuille que par celle de leurs patientes, approuvent cette campagne. De fait, en 1960, le nombre d'avortements dépasse officiellement le million, soit un chiffre d'affaires d'au moins 5 milliards de francs. Une interruption de grossesse coûte entre 2 500 francs et 6 000 francs non remboursés par la Sécurité sociale. Cette entreprise de démolition marketing, dans un pays traditionnellement rétif à toute découverte venue d'ailleurs, aura des retombées, bien sûr, dévastatrices pour la pilule. Aujourd'hui encore, selon une étude du planning familial, 67,7% des femmes refuseraient de la prendre par peur de ses effets secondaires. En octobre 1971, soucieux de lustrer un petit peu son image internationale, le gouvernement propose la suppression de l'avortement, sans toutefois autoriser la pilule. C'est le fiasco, bien sûr. Des milliers de femmes descendent dans la rue, fait extrêmement rare dans un pays où elles n'ont pas vraiment la fibre protestataire, pour réclamer le maintien de l'interruption de grossesse. Si on les avait laissées faire, c'était la fin de la liberté de disposer librement de son corps. Ce qui signifie le retour de l'abstinence ou celui de la chirurgie clandestine, se souvient Tada Miyoka, infirmière à l'hôpital de Kyoto. Cette manifestation sera la seule et unique de sa vie. Heureusement, ce n'est pas la seule de certaines femmes féministes au Japon. 2 ans plus tard, la pilule fait cependant son apparition sur le marché, avec une restriction de taille. Elle pourra être prescrite, non comme un contraceptif, mais uniquement pour soigner des déséquilibres hormonaux. Derrière cette frilosité, les poids lourds du marché du préservatif. La société Okamoto, numéro 1 mondial, vend tous les ans 500 millions de condoms de par le monde. D'ailleurs, en accordant du bout des lèvres cette concession, le gouvernement en profitait pour déplorer ouvertement l'effet corrupteur de l'introduction de la pilule dans les mœurs. Mais rien sur les interruptions de grossesse qui, au Japon, peuvent se faire dans un délai, donc, comme je vous le disais, de 22 semaines, l'une des plus longues périodes de tolérance au monde. Rien non plus sur le nombre croissant d'interruptions de grossesse pratiquées sur les mineurs. 32 431 en 1990 contre 19 000 en 1980, sans que l'accord des parents soit d'ailleurs obligatoire. En pratiquant cette politique de la terreur contre la pilule, le gouvernement a créé une culpabilité maladive chez les rares personnes qui osent la prendre, affirme Mika, une mère de famille qui a trouvé, à l'instar de quelques 3% de japonaises, une gynécologue suffisamment compréhensive pour la lui prescrire. Elle continue ainsi, « Non seulement on ne peut pas en parler en public, mais il faut la dissimuler en permanence, sous peine de passer pour une putain. » On en a pratiquement criminalisé l'utilisation. Un peu plus tard, en mai 1992, les experts médicaux pronostiquaient un changement radical de politique et une légalisation imminente de la pilule. Mais prenant tout le monde à contre-pied, le ministre de la Santé invoquera la sauvegarde de l'hygiène publique et les risques de propagation du sida. À cette époque, 713 cas déclarés et 3317 séropositifs en avril 1994. Donc il prend ces prétextes-là pour refuser jusqu'à nouvel ordre sa mise sur le marché. Et de rappeler que 80% des femmes mariées utilisent le préservatif comme contraceptif, ce qui constitue la meilleure garantie contre les maladies sexuellement transmissibles. Mais c'est de la poudre aux yeux, tempête Kunion Kitamura, directeur du centre de planning familial Ishigaya à Tokyo. Il ne faut pas oublier que les Japonaises sont passées maîtres dans l'art d'utiliser la prise de température comme mode de contraception. Donc si la majorité d'entre elles a effectivement recours au préservatif, c'est uniquement lors des périodes où elles sont susceptibles de tomber enceinte. Le reste du temps, elles n'utilisent absolument rien. De quelle protection peut-on alors parler ? En réalité, le veto des autorités médicales est une fois encore motivé par la démographie. Mais aujourd'hui, les craintes sont radicalement différentes de celles de jadis. Avec un taux de natalité de 1,3 enfants par foyer, le plus faible du monde, le Japon voit avec terreur se profiler un futur peuplé de dizaines de millions de vieillards que les nouvelles générations seront incapables de prendre en charge. Puisque, et c'est l'état des perspectives démographiques, une personne sur quatre aura plus de 65 ans en 2020. Que les Suisses se préparent à cette même situation. Les autorités ont par ailleurs peu de soucis à se faire quant à une éventuelle fronde des mouvements féministes. L'agente japonaise semble peu enthousiasmée par le sujet. Du moins, c'est ce qu'officiellement l'on raconte. La preuve, en 1992, seuls 6,9% des femmes se déclaraient prêtes à prendre la pilule si celle-ci était légalisée. Lutter, mais pour qui, interroge Mika, qui découvrira l'existence de la pilule à 22 ans lors de ses études aux États-Unis. La législation de la pilule, dit-elle, passe avant tout par une révolution sexuelle. Et dans ce domaine, le Japon a encore un demi-siècle de retard. Vous l'avouerez, de quoi donner du travail au féminisme japonais.
Each time I look at
C'est toujours Björk, chanteuse islandaise, dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler en direct de 17h à 18h30 tous les mercredis au 50 40 51 41. Je répète 50 40 51 41 023 si vous appelez depuis la Suisse voisine, Genève, Yverdon, Lausanne. Et ceci pour nous faire des annonces, nous faire des propositions d'émissions, nous faire vos commentaires sur ce qui se passe dans nos émissions. Cette émission qui, depuis 11 ans, se veut donner la parole aux femmes, parler des problèmes qui concernent les femmes, envers et contre tout, malgré celles et ceux qui, aujourd'hui, doutent peut-être de la nécessité de donner spécifiquement la parole aux femmes. Alors, la partie suivante, les textes suivants dont j'ai envie de vous parler, que j'ai envie de vous faire partager, que j'ai découvert au cours de mes lectures et qui peuplent ce planète femme du mois de, disons, fin janvier, début février. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février, bien sûr, mais c'est plutôt la fin de mes lectures du mois de janvier. Eh bien, a trait à l'Algérie. Après le monstrueux attentat qui vient d'avoir lieu en ville d'Alger pour... signe des intégristes pour punir les gens qui avaient osé manifester la veille pour dire qu'ils ne supportaient plus d'être les otages d'une guerre qui oppose intégristes et gouvernement algérien. Eh bien, des témoignages aujourd'hui ont plus d'importance que jamais pour montrer que des femmes et des hommes continuent à résister en Algérie à cette guerre larvée qui tue des dizaines de personnes chaque jour. Alors, le témoignage que je vais vous lire est le témoignage d'une journaliste algérienne. Comment peut-on être algérienne aujourd'hui? Comment peut-on choisir de rester dans son pays aujourd'hui? Et cette femme journaliste a choisi de raconter son quotidien, de dire comment, malgré sa peur, cette peur qu'elle refuse de faire sienne totalement, eh bien, son amour de la vie l'emporte. Alors, je vous lis son témoignage. À des amis suisses qui me demandaient « Comment peut-on continuer à vivre en Algérie ?» je ne savais trop que répondre. Pour moi, c'est tout simple. J'aime vivre dans mon pays. Vous allez expliquer des choses toutes simples quand autour de vous, les cris et la fureur des hommes confinent à la folie meurtrière. Certes, être femme, journaliste et célibataire de surcroît relève de la quasi-marginalité chez nous. Pour cause, la société algérienne arabo-musulmane ou berbère ne connaît qu'un rôle à la femme, celui d'épouse-mère d'une nombreuse progéniture, mâle de préférence. Une fabrique de musulmans en somme. Stakhanovis de la reproduction, les Algériennes ont du cœur au ventre. Avec un nombre moyen de 4,5 naissances par femme en 1990, elle donne la vie à 800 000 bébés chaque année. Si le taux de croissance de 3,4% des années 80 a chuté à 2,4% en 1992, cela ne signifie pas du tout que les Algériens ont décidé d'en faire moins. C'est dû en fait au phénomène assez récent du recul de l'âge du mariage des femmes. Crise du logement oblige aussi, déficit d'au moins 2 millions de logements. On se marie de plus en plus tard. La banqueroute économique, le rééchelonnement de la dette imposée ne font qu'accentuer les crises de toutes sortes. La chasse à l'espace est tout azimut. On vide la salle de bain pour dormir, on ferme les balcons pour y placer le lavabo et la cuisinière, et l'on gagne une pièce en plus avec la cuisine. C'est dire l'état de surpeuplement de nos appartements. Les 365 000 femmes actives dont je fais partie ne représentent que 5% de la population féminine en âge de travailler en Algérie et 8% de la population active totale. Très qualifiées, elles sont plus de 22% à avoir un niveau d'études supérieur pour 5,67% des hommes. Le même renversement spectaculaire se retrouve par groupe de métiers. Les femmes sont à 47,5% dans les professions libérales pour 10% des hommes. Chiffre datant de 1992. Exit donc les arguments des islamistes et autres misogynes qui prennent prétexte du chômage pour vouloir envoyer les travailleuses à leur cuisine. Plus de 80% des chômeurs sont des jeunes de moins de 30 ans, pratiquement sans qualification professionnelle. Depuis plus de 10 ans, dans les sermons de la prière du vendredi, des prêcheurs enflammés ont voué aux gémonies de l'enfer les femmes qui travaillent ou sortent sans le hijab, ce satané voile décrété islamique. En novembre 1987, quand une horde de fanatiques avait incendié la maison d'une femme divorcée, sans profession, accusée de prostitution, brûlant vif un de ses enfants âgé de 3 ans, des voix de femmes avaient alors sonné l'alarme. Attention, on s'attaque au maillon le plus faible de la société, la femme, mais viendra le tour des démocrates et des libéraux. Personne n'en a tenu compte et devant le laxisme des autorités, les agressions se sont multipliées. Abbassi Madani, ancien membre du FLN, devenu président du FIS, traite en 1991 des millions d'Algériennes d'éperviers du colonialisme, parce qu'elle s'habille à l'occidental depuis plus de 30 ans. 3 ans après, le FIS est dissous. Abbassi est en prison et le terrorisme fait des carnages. Les menaces de mort pleuvent dans les boîtes aux lettres, on tue des hommes et des femmes sans défense. C'est l'escalade de la terreur. On ne sait d'où peut provenir la balle assassine ou le couteau de l'égorgeur. On prend des précautions. Comme beaucoup de personnes menacées, je change d'habitude et de domicile. Je quitte Calitus, où les hommes n'ont plus le droit de fumer dans la rue, où les poteaux téléphoniques sont trop souvent coupés, où les faux barrages des terroristes sont un peu trop nombreux à mon goût. Des amis m'hébergent quelque part sur les hauteurs d'Alger. Dans leur quartier, personne n'est censé me connaître, aucun voisin n'a aidé de ma profession. Cela vaut mieux, le terrorisme se nourrit de la proximité. En mai 1991, Leïla, une amie, maître assistante à l'Institut des sciences humaines de Bouzeria, m'avait rapporté les propos tenus par son illustre collègue Abbassi Madani, l'enseignant de psychologie. Je le cite. « De toute façon, les listes sont descendues dans les quartiers. Nous n'avons compris que bien plus tard à l'importance de cette petite phrase lapidaire lâchée avec ironie pour clore un débat politique houleux dans la salle des professeurs. » Les listes de personnes à éliminer étaient prêtes en prévision de leur succès aux élections législatives. L'arrêt du processus électoral qui a confisqué la victoire aux islamistes n'a fait que transformer les processus d'une purification programmée. Les listes noires élaborées sont descendues aux cellules de base pour leur exécution. Dans les quartiers, tout le monde connaît tout le monde. Il est facile de cibler les journalistes, cadres, médecins ou policiers que l'on tire comme des lapins. Le 21 mars 1994, l'attentat à l'hebdo libéré jette l'effroi dans les rédactions. Zino, un copain, y échappe par miracle. La balle a traversé la nuque et est ressortie par la joue. 3 personnes sont abattues sur leur lieu de travail. Désormais, nous ne sommes plus en sécurité au journal, pas plus en sécurité au journal que chez nous. Beaucoup de collègues changent de métier ou quittent le pays. Ceux qui restent, de gré ou de force, développent un humour noir, méchant, du style « Face à l'incompétence ou au laisser-aller de nos gestionnaires, les terroristes se chargent de la compression du personnel. » Dans certains quartiers mosquées, on placarde des tracts, imposant le port obligatoire du djihad aux femmes sous peine de mort. L'ultimatum est fixé au 17 avril 1994. Dans la rue, je souris avec reconnaissance aux élégantes pressées. Elles sont des milliers à braver la mort annoncée, avec charme et décontraction. Sans tapage. Il est vrai que la tragédie n'est pas nouvelle dans notre vécu de femme. Algérienne, nous avons connu l'enfermement, les crimes d'honneur, la liberté surveillée, la virginité obligatoire, les noces de sang, les insultes dans la rue, le harcèlement sexuel au bureau. Personne ne nous a jamais fait de cadeau. Nous avons imposé notre présence dans les espaces publics. Petite, mon père me destinait à la médecine. La journaliste l'a déçu. Ce n'est pas un métier de femme, tu bouges trop. Aucun homme ne voudra t'épouser. Faire mon métier et vivre seule ont été des batailles existentielles. Ma mère, analphabète, issue d'une farouche lignée de montagnards, pas très causant avec les femmes, traitée comme des bêtes de somme, m'a pourtant soutenue dans mon choix de vie. Mariée à 14 ans, elle arrivait d'un autre avenir pour ses filles. Aujourd'hui, malgré le danger, plus de 25 femmes et 13 journalistes assassinés, je me sens quand même privilégiée, moi la journaliste, par rapport à mes millions de sœurs réduites au silence et à la claustration par les intégrismes de tous bords. Moi, qui n'ai jamais été portée sur le maquillage, j'ose le rouge à lèvres et le fard à joues. Je soigne ma tenue. Mes collègues étonnés se perdent en conjoncture sur mes motivations profondes. Comment leur expliquer que mon amour de la vie l'emporte sur les forces des ténèbres? Et que grâce à mon métier, je rencontre des hommes et des femmes magnifiques, dont je parle chaque semaine dans mes écrits, et qui se battent chaque jour que Dieu fait pour une Algérie meilleure. Comme Linda, une jolie brune, diplômée de l'INA, qui parle avec passion du respect des droits de l'homme et de la vie des arbres, qui a dit que celui qui coupe une fleur dérange une étoile. Linda est active dans une association écologiste. Avec mes amis, elle organise des journées de nettoyage des plages. Nassera pilote un projet de un projet de mise en valeur agricole dans, les pays du, dans le sud du pays. Il y a aussi Jamel, jeune directeur dynamique d'une agence privée de mannequins qui se démène comme un fou pour réaliser un défilé de mode, où le temps d'une soirée, l'élégance et la beauté relèguent au second plan le couvre-feu. Dans un autre domaine, Aïcha, la cinquantaine, a créé une association d'aide aux femmes en détresse. Elles sont des centaines à être rejetées avec leurs enfants à la rue par leur mari après un divorce ou une répudiation. Et ceci en toute légalité, puisqu'en vertu de l'article 54 du Code de la famille, le domicile conjugal revient de droit au mari en cas de séparation. Ce code a été voté par le Parlement FLN en 1984 déjà. En Algérie, il n'y a pas d'infrastructure sociale pour accueillir les divorcés abandonnés avec enfants, les femmes battues ou les mères célibataires rejetées par la famille. Elles vont grossir les rangs d'une prostitution souterraine obligée. Après moult démarches et prises de bec, les membres de SOS Femmes en détresse ont réussi à arracher aux autorités de la ville d'Alger deux chalets où 20 femmes et 25 enfants ont trouvé refuge. Assia, 19 ans, en Paris 14, victime d'un inceste commis par le grand frère de 23 ans, elle a la muette pâleur des enfants martyrs. Ses parents l'ont amenée à l'association pour cacher le scandale aux voisins. Recroquevillée sur elle-même, Assia ne parle pas, ne mange presque plus et garde toujours le poing sur la bouche. Le terrorisme couve aussi dans la famille. Assia était un enfant soumis et sage dont on avait arrêté la scolarité pour qu'elle reste à la maison. Une pièce cuisine qu'elle partageait avec ses 5 frères et sœurs et ses parents. Chômeur et ne rentrait que pour manger et dormir. Chômage, promiscuité, misère sexuelle et mal-vie font le lit du terrorisme. À tous ces jeunes desperados d'un no future à la sauce intégriste, le fascisme est une voie toute tracée. Le taulier qui a abattu Tahar Jaout, notre collègue journaliste, n'avait jamais lu ses livres. Les tueurs ne respectent même pas l'ancestrale hospitalité. Les lâches assassinats d'étrangers nous laissent en état de choc. J'ai mal à mon pays, il est des morts difficiles à assumer. Le terrorisme s'attaque aussi aux biens, brûle des écoles, des trains, des usines, des poteaux téléphoniques. Depuis l'incendie du parc de la voirie de la ville d'Alger, les rues de la capitale croulent sous les immondices. Mais il suffit de lever les yeux d'un de ces boulevards en pente pour être transporté par le scintillement de la mer. Adossé à ces collines, Alger a le secret de merveilleuses échappées sur une des plus belles baies du monde. Dans le jardin d'une de mes retraites de passage, je savoure en toute clandestinité l'heureuse profusion d'un jardin plein de senteurs. L'air y fleure bon le musc et l'iel. Quand dans la nuit sifflent les rafales, je ferme les yeux. Je rêve de paix. Une fois la sérénité revenue dans mon pays, aux différences enfin acceptées, je rêve d'inviter mes amis suisses à venir s'y balader. En toute sécurité. À la recherche d'un bien perdu, la femme doit récupérer son droit. La femme fut perçue comme l'égale de l'homme avant de perdre ses droits. Peut-elle encore aujourd'hui les retrouver au sein des communautés religieuses ? Telle est la question que tente à la, tente de répondre le rabbin François Garay. Je vous lis ce qu'il en dit. Dans une société façonnée par l'homme, les femmes accèdent difficilement à certaines fonctions. Il y a tout juste un an, la première femme entrait au Conseil d'État genevois. Le monde religieux n'est donc pas tellement en retard par rapport à la cité, mais l'image que des religions donnent de la femme n'a certainement pas facilité leur intégration dans la société contemporaine. Le livre de la Genèse nous assure que Dieu créa l'homme et la femme simultanément. Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle, il les créa. Le deuxième chapitre de la Genèse précise que la femme sera une aide digne de lui. Ce qui traduit mot à mot de l'hébreu veut dire « aide comme contre lui ». comme si le texte voulait donner l'image de deux êtres qui se soutiennent mutuellement pour assurer une station verticale pour les deux. C'est donc bien ensemble que hommes et femmes constituent le genre humain. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les communautés libérales, la femme possède les mêmes droits, les mêmes devoirs que les hommes, même s'il a fallu attendre 1973 pour que la première accède au rabbinat. Dans les communautés orthodoxes, aujourd'hui comme hier, la femme ne possède pas les mêmes droits que les hommes. Elle ne peut être ni témoin ni juge, car elle n'y jouit pas d'une pleine identité juridique. Elle ne participe pas au service au même titre que l'homme, et sa place est derrière celui-ci ou à un autre niveau. On en est arrivé là en posant la règle que la femme n'est pas astreinte au commandement positif dont l'application est liée à un moment précis. Cette dispense accordée à la femme est devenue peu à peu une interdiction lorsque les femmes ont exprimé le désir d'accomplir de tels commandements. Cela leur a été refusé au sein des communautés orthodoxes juives, mais accordé, après débats parfois houleux, dans les communautés libérales. D'autres ont expliqué que la femme n'est pas astreinte à tous les commandements, car elle est un être plus accompli que l'homme, puisqu'elle donne la vie. Elle peut atteindre le même niveau de spiritualité que l'homme, sans avoir autant de commandements à respecter. Ce sophisme a mené à une ségrégation de fait, puisque dans les communautés orthodoxes juives, seul l'homme peut mettre en pratique tous les commandements et participe pleinement au service divin. On retrouve ici, comme dans d'autres traditions religieuses, le clivage entre ceux qui affirment détenir une révélation normative et non évolutive, qui, dans le sujet présent, induit une différence irréductible entre l'homme et la femme, et ceux qui défendent une conception évolutive de cette révélation et essayent de construire une société plus égalitaire. Devant la réalité de la société contemporaine, nous ne pouvons pas non plus nous réfugier derrière une explication telle que « si les lois religieuses étaient appliquées, hommes et femmes seraient égaux ». Car nous savons bien que dans de nombreuses pratiques religieuses instaure une discrimination envers la femme et que bien souvent la loi religieuse est invoquée pour maintenir un statut d'infériorité de la femme au sein de la société. Lorsque dans les églises, dans les temples, dans toutes les mosquées et dans toutes les synagogues, les femmes auront, dans la théorie comme dans la pratique, les mêmes devoirs et les mêmes droits que les hommes, la femme et l'homme redeviendront complémentaires, comme le projet divin initial. Comme pour nous, une des façons d'influencer la société civile et de la faire aboutir à une égalité vraie est d'agir au sein de nos communautés religieuses respectives en faveur d'une égalité entre l'homme et la femme, ce travail nous incombe. La différence ne sera alors plus cause de rejet, mais source de complémentarité.